et 6 heures du matin, les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
À l'encontre d'une tendance de la génération précédente qui s'inscrivait dans l'idée que l'on pouvait faire table rase du passé, nous constatons aujourd'hui un besoin général d'approfondissement de nos origines. C'est ce que nous propose cette série sur la psychogénéalogie. Nous retrouvons aujourd'hui la deuxième partie, Maladie et arbre de vie, une émission de Bénédicte Niogré réalisée par Claude Giovannetti et diffusée le 6 août 2005.
Courir, il y a très longtemps. Ce qui chez nous est très fréquent, c'est ce qu'on appelle les prola. Les prola, c'est, on dirait il était une fois, on dirait courir, il y a très longtemps. Voilà ce qui est arrivé. Une femme est sur le chemin, un homme a voulu la capturer ou la violer, et donc... tuant la femme sur le chemin qui était enceinte et la prole à l'histoire, donc correct, il était une fois, c'est que l'homme a tiré dans son ventre et que le pied de l'enfant est sorti quand il a tiré.
La psychogénéalogie ou la transmission de la mémoire familiale. L'arbre de vie. Quand on demande à un Asiatique de dessiner un bambou, il prend un pinceau, le pose au bas de la page et remonte le trait dans un mouvement ascendant afin de figurer la tige du bambou. Instinctivement, il part de la genèse et suit le mouvement de croissance de la plante. Si l'on demande la même chose à un occidental, dessiner un arbre, il va prendre son crayon et, rationnellement aussi bien qu'efficacement, tracer deux traits parallèles de haut en bas qui figureront le tronc. L'occidental a une représentation du résultat quand l'asiatique revit le mouvement du développement. Il en est de même dans l'élaboration de son arbre généalogique. On peut dire que la démarche de la psychogénéalogie et du transgénérationnel est de retrouver en soi le souffle qui passe de nos ascendants à nos descendants. Ne plus voir la lignée de l'extérieur, mais revivre du dedans la chaîne de transmission. Catherine Preljocage.
Mon histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille née en France de parents albanais qui ne connaît pas l'Albanie et qui a été élevée sur une double culture avec un rapport de force qui m'a conduit à 30 ans à me sentir vraiment coupée en deux. C'est-à-dire quelle était ma partie française et quelle était ma partie albanaise et comment je pouvais m'arranger avec ça. Je savais bien que j'avais des difficultés avec mes parents, que je refusais d'être une albanaise. J'essayais d'être une française, mais quand j'étais avec les Français... on avait ce côté albanais qui ressortait systématiquement. Par exemple, les Albanais sont très susceptibles, ils ont un sens de l'honneur qui est développé à outrance, donc tout ce que dit l'autre est beaucoup plus important même de ce qu'on peut penser soi-même. Il y avait ça, puis il y avait ce sens de l'hospitalité que les Français ne comprenaient pas de la même manière que moi, ou cette manière de prendre le café turc, etc. Mais ça, tant que ça n'était pas dangereux pour moi, je le vivais, je l'absorbais, mais la maladie m'a montré qu'il fallait aller beaucoup plus loin et résoudre ça vraiment, puisque j'étais donc perçue par les Français comme une Albanaise et par les Albanais perçue comme une Française. Et donc cette difficulté à être moi-même est devenue récurrente à un point qu'effectivement ça a agressé mon organisme. Donc j'ai eu un lymphome avec une tumeur à l'estomac. Et c'est à la suite justement de cette maladie grave, qui peut être mortelle, que je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait vraiment un souci de double culture et d'être coupé en deux, à la fois symboliquement parlant et physiquement parlant.
Votre manière de réagir au monde, elle est déjà pré-programmée, inscrite. Par exemple, quand vous buvez une tasse de thé, votre manière de boire, elle est bien uniquement de votre manière d'être. Tout dans votre corps est déjà inscrit. Dès le moment où vous marchez, vous dormez, vous levez, votre manière de voir le monde est déjà liée à comment vous vous situez, vous, dans votre histoire familiale, dans votre vie. C'est-à-dire qu'on a une identification à nos idées, à nos principes, qui fait qu'on se comporte d'une certaine manière. Et ce comportement, évidemment, on se comporte avec le corps. On ne se comporte pas seulement avec ce qu'on pense, on se comporte avec le corps, donc c'est déjà inscrit.
Pendant le temps de la maladie, on est souvent, malheureusement, longtemps allongé. Ça a été le cas pour moi. Et donc, j'ai un peu repris le fil à l'envers. J'ai commencé à revenir sur mes souvenirs d'enfance. Et très, très vite, une fois qu'on dépasse le principe du souvenir de l'enfance, on revient dans des sensations qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus violentes. Et je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui ne m'appartenaient pas. Et donc, ça m'a fait rentrer dans un travail thérapeutique assez, je dirais, constant pendant des années. Et ça m'a fait passer effectivement par la psychogénéalogie ou avec un psy. J'ai travaillé pendant 2 ans tout ce qui était de l'ordre de ma famille. Et je me suis rendu compte que, alors qu'au départ je disais tout ça ne m'appartient pas, il a fallu qu'à un moment je me dise que j'accepte et que j'intègre que si, ça m'appartenait. C'est-à-dire que nous sommes, moi je suis une individualité, une personnalité, un ego, un cœur, une âme, tout ce qu'on veut. Mais n'empêche que je charriais avec moi des histoires qui concernaient mon père, ma mère, mes grands-pères, grand-mère, arrière-arrière, et qu'effectivement j'ai refait tout chemin arrière pour aller voir ce que je pouvais porter avec bonheur et me débarrasser sur ce qui me traînait plutôt vers le bas.
Prajokage n'ont pas accompagné votre cheminement, mais malgré tout, vous avez réussi à retrouver beaucoup d'informations qui vous ont permis de comprendre quelle avait été notamment leur vie et le côté dramatique justement de leurs itinéraires.
Oui, parce que mes parents, comme beaucoup de réfugiés politiques, eux sont déjà dans la souffrance de l'exil, et parce qu'ils étaient d'un milieu ouvrier, leur conscience à l'époque était de « on travaille, on a 5 enfants à élever et puis on se tait, on ne raconte pas ». Donc on avait juste des bribes quand on était dans des réunions familiales comme ça. Et quand j'ai commencé à faire ce travail avec ce psychogénéalogiste, j'étais fâchée avec mes parents et j'ai décidé de faire, en fait, un peu comme Tintin. Je suis allée sur leurs traces, mais jamais en leur posant des questions directes. Donc j'ai dévié tout en allant au plus près d'eux, parce que je pense qu'ils ne m'auraient jamais dit eux-mêmes leur propre histoire. Il y avait trop de pudeur et trop de souffrance encore. Et les autres ont pu dire ce que eux, en fait, avaient du mal à me raconter, notamment sur le premier enfant de la famille qui était mort de faim. Il y a eu tout un secret pendant des années. On savait qu'on avait eu un frère mort, on savait qu'il s'appelait Valentin, on ne savait pas à quel âge, on ne savait pas pourquoi. Ma mère elle-même confondait 6 semaines avec 6 mois, donc elle n'arrivait même pas à nous dire la vérité. Et puis c'est une cousine de ma mère qui m'a raconté l'histoire. Et le fait de le savoir, moi, ça m'a expliqué beaucoup de choses, et en allant encore plus loin, plus haut sur la généalogie, je me rendais compte que le premier garçon, le quatrième garçon, mourait presque systématiquement du côté de mon père. C'est quand même assez étonnant, justement, quand avec la psychogénéalogie, on peut voir ça. Et pour, par exemple, guérir ma relation avec ma mère, j'étais obligée de m'imaginer sentir au départ, et puis le sentir vraiment profondément pour m'en séparer. Quand, par exemple, je raconte la mort de Valentin, ou son deuil, je suis allée toujours dans cette même émotion pour la comprendre, parce que la vraie compréhension n'est pas dans l'acceptation intellectuelle de la chose. En tout cas, moi, je sais que pour comprendre quelque chose, j'ai besoin que ça passe émotionnellement. La compréhension ne me délivre pas de la souffrance. J'ai besoin de rentrer dans l'émotion pour que la souffrance, c'est presque comme s'il fallait que je la vive encore une fois, pour qu'elle se dilue. Et donc, à chaque fois, j'étais obligée de passer par l'émotion.
Dans son poing, l'arme était lourde. Elle avait la densité du destin. Il en contemplait la surface polie, les arêtes sombres, la géométrie courte et plate, et cela le calmait. Il goûtait le profil camard du manurin, ce museau agressif de supplicié qui, à tout instant, pouvait cracher sa venimeuse bouchée. Il l'appliquait contre son cœur en retenant son souffle. La giclée sèche du plomb lui arriverait en pleine poitrine. Cela ferait mal une seconde, comme une pénétrante et brûlante morsure, comme une grosse bille d'acier avalée de travers, se forçant un passage dans l'œsophage. Puis, la lumière et l'univers s'éteindraient, emportant avec eux jusqu'à l'annonce du cercueil, ne laissant après lui qu'un long rouleau de papier définitivement blanc. Il mourait l'année de ses 20 ans. Dès les heures profondes de l'enfance, il en avait eu le pressentiment. L'année de ses 20 ans, il mourrait. C'était écrit. Les premiers signes ne s'étaient pas manifestés pour le confirmer que son esprit avait déjà intégré cette donnée dans sa vision du monde. Le fait était aussi assuré que la présence des montagnes sur la terre ou du soleil dans le ciel. Cela envahissait toute son existence, nourrissait et modifiait le champ entier de ses relations avec les vivants.
Ça, c'est l'arbre d'une personne qui est ingénieure agronome.
Oui.
Ça, c'est l'arbre d'une artiste peintre.
Marie-Paul Jonathan.
Donc, pas tout à fait le même âge et surtout pas tout à fait la même vie, ni les mêmes conditions. Alors, même schéma, même consigne. Une vie de femme, deux vies de femme, mise en dessin, enfin dans cet arbre. Alors, de façon conventionnelle et pour la lisibilité de l'arbre, je demande que les noms féminins soient entourés dans un ovale de couleur et les noms masculins dans un rectangle de couleur. Les couleurs permettant de bien voir les deux lignées, parce que le travail transgénérationnel, qui est un travail sur la verticalité et l'horizontalité, est donc un travail d'équilibrage. On est exactement comme un funambule sur le fil de sa vie, et la perche, c'est le féminin, c'est le masculin, qui vont nous permettre d'avancer. Donc il y a quelque chose dans le travail qui est une réhabilitation des deux lignées, mais toujours par rapport au même schéma et aux mêmes consignes. Donc voilà cette personne qui, elle, a bien voulu garder par rapport aux grands-parents cette verticalité un peu libre, là, comme ça, comme un espace, mais alors, par cet encadrement, elle est allée complètement du côté maternel, et là, c'est son fils avec aussi quelque chose de...
Elle empiète sur son fils.
Oui. Elle empiète sur son fils, chose qu'elle va voir. par rapport à l'histoire qu'elle a raconté, toute l'histoire par rapport à la mère, toute l'histoire. Donc, ce sont des éléments visibles de choses qui ont été élaborées. C'est pour ça qu'un arbre fait sans élaboration ne peut pas amener tout ça. Ça reste plus proche d'un arbre de généalogiste où on va vraiment s'ingénier à mettre les choses à leur place. Voilà.
Là, ce qui compte dans ce travail transgénérationnel, Marie-Paul Jonathan, c'est pas tant de l'information, la répétition de l'information, son savoir exact, que la manière dont chaque personne va intégrer tel ou tel élément de l'histoire familiale.
Bien sûr, cette intégration va amener des répétitions. Mais il y a dans ces répétitions héréditaires, je dis héréditaires entre guillemets parce que ce sont des héritages, mais ça va devenir héréditaire, et il y a des répétitions néfastes. Alors comment en sortir? Le transgénérationnel permet de mettre en place, de voir, de cerner ces phénomènes répétitifs et de voir ce que l'on a envie d'en faire. Parce que le sujet est à tout moment libre de changer. Il est donc responsable de ce qu'il va vouloir faire ou devenir.
Continuité de ce que les autres ont été avant nous, mais ça ne nous oblige pas à ne pas changer d'un iota ce qui s'est passé avant, mais que justement on est peut-être là pour l'améliorer, ou en tout cas guérir des histoires, guérir des prophéties, guérir des maladies, guérir des accidents. Je vois par exemple, en allant encore plus loin, plus haut sur la généalogie, je me rendais compte que mon grand-père en fait maternel était mort à 29 ans et demi d'une balle dans l'estomac, et qu'en fait moi j'avais déclaré la maladie à 29 ans et demi. Et c'est là où j'ai été obligée, du coup, de faire un autre travail, qui était de faire le travail du deuil de mon grand-père, que ma mère elle-même, certainement, c'est ce qu'on m'a expliqué, n'avait peut-être pas fait.
Mais justement, vous racontez les circonstances pathétiques de la mort de ce grand-père.
Donc, en Yougoslavie, c'était pendant la guerre, et il est mort lors d'une altercation avec les fascistes. Il a reçu une balle. Donc, ce que j'ai compris de mon côté, c'est que un jour, ma mère a 9 ans, on lui ramène dans un camion son père avec les entrailles ouvertes. Elle comprend qu'il est mort et elle tombe dans un égarement pendant 4 jours et 4 nuits où elle délire.
Personne ne lui dit qu'il est mort.
Personne n'ose lui dire. Et pourtant, elle l'a vu. Mais il n'y a pas de mot qui est posé dessus. Et comme, là encore, c'est le côté un peu compliqué des Albanais, comme elle n'avait déjà pas de frère, ce qui déjà est un déshonneur pour une famille, et on se demande pourquoi. Et donc, elle dira plus tard que c'était lourd à porter pour elle, parce que par rapport aux autres familles, elle avait du mal à être quelqu'un de bien, parce qu'elle n'avait pas de père ni de frère. Quand je vois que ma mère, en fait, elle perd son père, elle a 9 ans, et des années plus tard, elle perd son premier enfant. Il y a comme, l'homme n'a pas sa place dans cette... Donc ça, moi, ça m'a fait énormément réfléchir sur son attitude en tant que ma mère, quand elle nous parle à nous, ses enfants. Ça met en lumière plein de choses qui n'étaient pas dites et qui n'est pas de l'ordre du compréhensible, et puis du coup, ça devient clair. Ça ne veut pas dire qu'on accepte forcément en pardonnant, mais on est bien obligé de l'accepter.
De surprise en surprise. En tournant ces pages parfois jaunies, souvent poussiéreuses et couvertes de calligraphies anciennes avec pleins et déliés, je m'aperçus d'abord avec étonnement, puis avec inquiétude, pour finir avec une inexprimable angoisse, que sur l'arbre généalogique des Flanders, un rameau avait été, à chaque génération, précocement sectionné. Aussi loin qu'il me fut possible de remonter, chaque couple de mes aïeux avait perdu un enfant à la fleur de l'âge. Mon grand-père, Alphonse Flanders, avait eu un frère, Augustin, assassiné par un rôdeur en 1925. Mon arrière-grand-oncle Amédée s'était lui-même éteint de tuberculose en 1903. Le père de celui-ci, Ludovic, avait vu périr son frère Jules, tué en 1870 du côté de Sedan. Son oncle, Georges, manquait également à l'appel. Il s'était noyé l'année de la proclamation de la Deuxième République. Enfin, le grand-père de ce dernier, Jean, le dernier dont je pus retrouver la trace, était déclaré disparu en 1829, sans précision de la cause du décès. Au fil de mes trouvailles, je réalisais progressivement, avec une indicible horreur, qu'à chaque génération, un Flanders mâle mourait exactement à 20 ans.
Vous êtes énergéticienne et vous trouvez à travers votre travail sur l'énergie qui circule dans le corps des mémoires familiales. Comment accéder à ces mémoires familiales ?
La plupart du temps, on est dedans, tout le temps, dans ces mémoires familiales. C'est-à-dire qu'on a une manière de voir le monde à travers nos conditionnements. Et ces conditionnements s'impriment au niveau de notre mental psychologique. Dès le moment où vous êtes né, qu'il y a déjà une cellule, une matière, il y a déjà une mémoire. Le petit, même si vous avez deux cellules qui commencent à s'assembler pour faire un embryon, pour faire un fœtus, il y a déjà une mémoire. Mais cette mémoire-là, elle n'est pas très problématique, mais c'est une mémoire d'être humain. Pourquoi je me ressemble en être humain et pas en têtard ? Pourquoi ? Parce que dans l'évolution de l'être humain que vous avez dans le ventre de la maman, vous avez toute la mémoire de l'espèce, de l'être humain. Ce qu'il y a là, c'est que les conditionnements liés, en règle générale, au fait qu'on est un être humain, ne causent pas de problématiques parce que ce n'est pas trop source de souffrance. Tout le monde voit de la même manière, donc ce n'est pas un problème. C'est quand on commence à souffrir, quand le conditionnement devient très personnel. J'ai été élevée comme ça. Donc, je ne peux voir le monde que comme ça. Donc, dès qu'il y a quelque chose qui est différent, je vais en éprouver une souffrance parce que ce n'est pas quelque chose que je connais. Et à partir de là, il y a une manière de réagir qui est déjà conditionnée. Moi, je m'occupe donc de la partie principalement physique, c'est-à-dire quand les gens commencent à avoir des symptômes physiques. Bon, bien sûr, ils ont un mal-être, mais ce mal-être s'inscrit toujours dans le corps. Donc, cette mémoire-là, elle est toujours dans le corps, c'est-à-dire que vous n'avez pas une réaction, une manière d'être physique qui est au départ complètement naturelle, complètement non conditionnée.
Et la mémoire des parents ou des grands-parents, comment passe-t-elle ?
Parce qu'elle passe par la mémoire de la particule. Et ça, ça rejoint les nouvelles données mathématiques. C'est qu'on est tout le temps en perpétuelle transformation matière-énergie. C'est-à-dire qu'il y a une particule élémentaire qui se transforme tout le temps en une onde. Une onde, c'est-à-dire comme une lumière, il y a quelque chose de statique qui se transforme en un mouvement. Donc il y a toujours cette perpétuelle transformation d'une particule en onde. Ça, ça fait partie de la physique quantique, la physique des dernières découvertes mathématiques. Et ce mouvement, la particule en onde que l'on a en nous, on appelle ça l'onde psi. Et dans le corps, on a des milliards et milliards de particules. Donc on a globalement une onde psi qui est toujours en train de bouger, de se transformer, onde-particule. Et cet on-psi, c'est ce que dans les textes anciens, ils appellent le corps énergétique. C'est-à-dire que les médecines traditionnelles en ont fait une schématisation que nous, on n'a pas. Nous, on sent. Et c'est flou, on n'a pas de précision de règles de conduite. Alors que quand vous allez en médecine orientale, que vous alliez chez les Chinois avec les méridiens, vous avez toute une schématisation, ça monte, ça descend, ça va à droite, ça va à gauche, c'est lié à ci, le foie est lié à ceci, cela. Quand vous allez dans la médecine ayurvédique, vous avez les chakras, les centres énergétiques, qui sont aussi des grands centres d'accumulation et de répartition d'énergie dans le corps, donc ils sont eux aussi toujours en perpétuelle transformation. Matière, onde, c'est-à-dire tout ce qui est physique peut être toujours en corrélation avec quelque chose de plus subtil, plus vivant, comme les émotions, comme une pensée, c'est-à-dire c'est tout le temps lié.
L'automne qui suivit mes recherches généalogiques, je fus aux portes de la folie. J'étais envahie par le sentiment d'être entourée par mes ancêtres, du moins par ceux qui avaient été emportés prématurément. Je ressentais leur présence près de moi, pressante, cajolante, comme s'ils m'espéraient pour une fête, comme s'ils se préparaient à me voir franchir à mon tour l'épreuve et le rite de passage. Quelquefois, j'entendais des rires étouffés, ou bien je sentais des frôlements dans mon dos, des tapotements sur l'épaule, et je me retournais vivement, le cœur battant, tandis que les gloussements s'éloignaient. Il n'y avait jamais personne. Cela me confortait dans l'idée que c'était bien eux qui étaient là, les Flanders. Je les savais massés derrière moi, attentifs et soudés, qui se faisaient des clins d'œil en attendant l'initiation, mon initiation. Ils étaient tous présents. Jean, Georges, Jules, Amédée, Augustin, Jacques, et peut-être les autres, les anciens, perdus dans le passé, dont je n'avais pu remonter la trace. Il me semblait presque les reconnaître individuellement, à certains signes qui leur étaient propres. Je croyais percevoir le souffle rauque d'Amédée, la démarche hésitante d'Augustin, ou la présence chaleureuse de mon oncle. C'était l'affectueuse famille des morts qui m'entourait, impatiente de m'accueillir.
Vous voulez que je vous montre un arbre d'homme ?
Oui.
Alors,
Marie-Paul Jonathan.
Le nombre de personnes qui vont figurer sur un arbre dépend évidemment de la personne, mais de ses origines. Là, nous avons un arbre d'un homme qui a été soucieux de garder un chemin dans sa verticalité, c'est-à-dire de respecter un espace. Je dis toujours que c'est comme les deux hémisphères du cerveau qui doivent, ça c'est dans la tradition chinoise qu'on dit que l'illumination, c'est quand les deux parties du cerveau s'écartent. Et je montre bien l'importance de la lignée paternelle et de la lignée maternelle, d'être dans une double appartenance, d'être vraiment le fruit de deux personnes, mais de garder l'espace pour pouvoir mener sa propre vie. Donc, je le dis une fois pour toutes, je n'insiste pas, je ne suis pas là à dire « mais attention, n'allez pas trop à gauche ». Et je vois comment cette consigne est reçue et est importante pour certains qui vont vouloir construire et garder cet espace, aussi mince que ce soit. Alors, bien évidemment, j'incite mes patients à faire en même temps un travail corporel. Le travail le plus approprié est le Qigong. Mais pourquoi pas le yoga? Et puis le massage, toujours. Quand je dis le travail corporel, c'est aussi et je le conseille, je le suggère, quand je sens que vraiment les personnes sont à côté de leur corps. Même si elles sont physiquement très bien. Parce que, bien évidemment, un corps peut très bien fonctionner au niveau physiologique, tout peut être parfait, mais au niveau énergétique, c'est autre chose. Le transgénérationnel, c'est un travail sur le corps énergétique. Ou sur l'image inconsciente du corps, aussi. Vous voyez, j'emploie des termes différents parce que les uns sont occidentaux et les autres orientaux, mais pour moi, ça se rejoint. Alors, bien évidemment, le Qigong, c'est la verticalité. C'est le souffle et la verticalité. La verticalité, je dirais que c'est le maître mot pour moi du transgénérationnel. Ne serait-ce que visuellement, quand on voit un arbre généalogique par rapport à un sujet, ça se construit étage par étage. Et bien évidemment, le Qigong, pour ceux qu'il est basé sur les fondements de toute cette philosophie et de cette spiritualité orientale, chinoise bien sûr.
C'est qu'on a une structuration, une schématisation de la médecine énergétique dans le corps qui est très précis. C'est pas simplement je sens, puis c'est tout. Et dans le corps, on a un schéma comme une anatomie énergétique et qui se vérifie. Et ce qui est fabuleux, c'est que ça se vérifie en médecine chinoise, ça se vérifie en médecine ayurvédique et ça se vérifie également avec l'arbre de vie de la Kabbale. Donc quand même que les grandes traditions se retrouvent avec les mêmes centres énergétiques. Mais ces traditions-là n'ont pas d'instruments et n'ont pas dégagé des fréquences, des trucs techniques. Tout ce qu'ils vous disent, c'est santé. Quand vous allez faire du yoga, quand vous allez ressentir. C'est tout. Et vous verrez. Mon prof de Qigong me dit, tu étouffes. Oui, oui, parce que j'ai eu de l'asthme. Respire. Continue à respirer. Donc, il n'y a que ça. Donc, le petit aide qu'on a là, c'est parce que ça aide à accélérer le ressenti.
Je pensais beaucoup à mon oncle. Je me demandais s'il avait su comme moi ce qu'il attendait. Si des signes avaient agité devant lui la menace d'un rendez-vous fatal. Avait-il ressemblé à quelqu'un? L'avait-on élevé dans l'absence d'un autre? Soudain, je ne doutais plus qu'il ait eu lui aussi son ange annonciateur. Probablement Augustin, son oncle, décédé en 1925. Il avait dû contempler son visage dans un cadre de deuil, traquer les preuves de sa survie sur les berges du monde. Voilà comment l'histoire s'était écrite et comment elle se réécrivait toujours. Il avait grandi en comptant les jours, les mois, les années. Il avait marché sur des traces plus anciennes. Il s'était tourmenté à se cogner le crâne contre les murs. Nous avions eu la même jeunesse en définitive, la même vie. L'identification était parfaite. Mais l'identification à qui ? Je ne pouvais plus rien revendiquer qui me fût propre ni qui me vint réellement de lui. J'étais mon oncle et lui-même était un autre, et ainsi de suite, dans une longue chaîne de Flanders, où tous jouaient un rôle qui n'appartenait à aucun depuis les origines.
Il ne peut pas y avoir de connaissance sans sexualité. Si l'arbre est la succession des générations, le fruit de l'arbre, c'est le corps. Donc, c'est parce qu'on va toucher à la mémoire du corps qu'on va avoir la connaissance. Et que la connaissance, alors là, il faut l'arbre, il faut le savoir des ancêtres pour savoir ce qu'on fait dans le sexe, pour se reproduire correctement et ne pas faire la bêtise d'Ève de croire qu'on peut faire ses enfants tout seul. Avec Dieu. Donc, d'une part, dans la Bible, On vous donne le sexe comme la porte de la connaissance, et c'est important de redire ça aux humains, parce que c'est parce qu'on prend le risque de vivre, le risque de sa sexualité et le risque de sa mort qu'on va se construire.
Didier Dumas.
Dans la Bible, vous avez deux divinités qu'on a un peu négligées, le serpent et l'arbre de vie, qui sont, contrairement à ce qu'était le dieu biblique au tout début, universels. Parce que le dieu biblique n'est pas du tout un dieu universel, alors que l'arbre de vie l'est. Le serpent est aussi une divinité universelle. Si vous ouvriez Mircea Eliade, vous tombez sur le fait que l'arbre de vie existe partout. Alors, en Méditerranée, ça va être l'olivier, en Sibérie, ça va être le bouleau, mais l'arbre de vie existe sur toute la planète. Et ça, ça réfère aux savoirs chamaniques anciens, qui sont à ce niveau-là les mêmes, parce que les hommes les ont eus avec les mêmes structures mentales et le même inconscient. Dans le chamanisme, votre verticalité vous vient des plantes et en premier de l'arbre, et votre horizontalité, c'est-à-dire la possibilité de se développer à la surface de la terre, vous vient des animaux. Donc dans le chamanisme, vous travaillez avec les divinités de votre phylogénèse, c'est-à-dire les divinités minérales, votre corps est constitué de minéraux, les divinités animales, à qui vous devez votre mobilité, et les divinités végétales, l'arbre, à qui vous devez votre verticalité. C'est la raison pour laquelle on parle d'arbre généalogique, parce que la verticalité, c'est le rapport à l'ascendance et à la descendance. L'horizontalité, puisque verticale et horizontale se croisent dans le sexe, hein, l'horizontalité, c'est le rapport au plaisir, à sa propre génération. La verticalité, c'est le rapport aux ancêtres et aux enfants. Donc, ce qui est particulier dans la Bible, c'est d'avoir dédoublé l'arbre de vie en deux arbres. Un arbre, l'arbre de vie, qui va rester la propriété de Dieu, et l'arbre de la connaissance, qui représente la façon dont, par la parole et le savoir, l'homme, Adam et les autres vont essayer de rejoindre Dieu, de rejoindre le savoir de Dieu, en empilant le savoir et en se le transmettant dans la succession des générations.
Mark Flanders, il savait, il comprenait que depuis le jour de sa naissance, chacun de ses gestes, chacun de ses choix, chacune de ses pensées l'avait conduit à cet enchaînement d'événements, à cette nuit fatidique où tout devait se résoudre. Seul à avoir toujours voulu sa fin, il lui appartenait maintenant de ne la vouloir plus. La malédiction des Flanders, cette dangereuse hallucination collective, tant des siens y avaient sacrifié leur vie. Il était temps que cela s'arrête. Il était temps qu'il y en eût un qui décide de vivre. À cet instant, il comprit ce qu'il était. Il était le regard des siens. Tous ces regards qu'il avait modelés et pétris jusqu'à sa forme actuelle. Le regard de son oncle qui planait sur ses nuits d'enfant. Celui de sa mère qui l'épiait, même absente. Celui de sa grand-mère mourante qui le happait. Celui de Jeb grachotant sa lumière derrière ses lunettes. Celui des femmes pendant l'amour, celui de Dieu qui le guettait en tout point de la terre. Il était son oncle, il était sa mère, il était sa grand-mère, il était eux tous, il était Dieu. Il était l'étrangeté inquiétante de l'autre. Il découvra que tous ces regards perdus, noyés, impérieux, contractés, possessifs, tendus, avides, étaient des visages angoissés de l'abîme, les masques du monde nés de sa peur. Il comprit qu'il les portait en lui, autour de lui, comme autant d'enveloppes le séparant de lui-même. Il pensa à cette révélation qui maintenant le traversait. Ce néant dynamique qu'il venait de goûter, cette indifférence tranquille aux incertitudes du moi, ce repos éternel qu'il n'était plus très loin de connaître. Dans un éclair, une certitude absolue, indestructible, s'imprima en lui avec la force de l'évidence. Il pouvait être comme ne pas être, vivre ou mourir, croître ou pourrir, c'était égal. il ne cesserait pas d'être la chose et le regard sur la chose, et d'appartenir à l'univers et au vide de toute chose.
C'est ce qu'on appelle les prola. Les prola, c'est, par exemple, on dirait il était une fois, on dirait coher, il y a très longtemps. Voilà ce qui est arrivé. Coher, il y a très longtemps. Et alors, je me souviens que, par exemple, dans la construction de ma psychogénéalogie, quand j'ai fait tout le travail sur les hommes, parce que l'histoire des hommes du côté de mon père était assez douloureuse, et comme, d'ailleurs, comme par hasard, ma mère est orpheline à l'âge de 9 ans, elle perd son père. Et mon père quitte sa mère, il a 14 ans, en pensant qu'il la retrouverait un jour, il ne l'a jamais retrouvée. Et donc en fait, j'ai affaire à deux parents orphelins d'une de leurs parties, et pas à n'importe laquelle, puisque c'est leur référent au niveau de l'Oedipe. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Ils sont bien rencontrés avec cette part manquante qui les a bien construits tous les deux ensemble. Et quand j'ai fait ce travail donc sur la psychogénéalogie, quand j'ai eu fait le travail du côté de mon père, j'ai commencé à me pencher donc sur les femmes du côté de ma mère. Et là, j'ai trouvé, mais alors vraiment, des histoires, des paroles, des choses qui se racontent depuis la nuit des temps sur alors telle famille est maudite parce qu'un jour... parce que c'est très moyenâgeux, toutes ces histoires. Parce qu'avec le canoun, alors il y a tout le code de l'honneur. Il faut quand même savoir que le canoun vient d'être aboli en Albanie seulement le mois dernier. Le canoun, c'est en fait œil pour œil, dent pour dent. Mais c'est quand même assez bien orchestré. C'est que si un homme tue quelqu'un dans une famille, on se vengera, mais on ne tuera qu'un homme, jamais une femme. Mais il y a eu une femme, et sur le chemin, un homme a voulu la capturer ou la violer, et donc le frère de cette femme-là est allé, pour se venger, tuer le type dans une autre famille. Cette famille-là, plutôt que d'aller se venger en prenant l'homme, par exemple le mari de cette femme-là, ou son père ou son frère, est allé se venger directement en tuant la femme sur le chemin qui était enceinte, et la prole à l'histoire, donc coher, il était une fois, c'est qu'on raconte que l'homme a tiré dans son ventre et que le pied de l'enfant est sorti quand il a tiré. Et donc, ça faisait rejaillir comme une promesse de malédiction, toi dans ta famille, sur les 7 générations, les femmes ne seront pas heureuses, ou n'auront pas d'enfants, ou ne seront pas épanouies dans leur mariage. Et alors ça se raconte devant le feu de cheminée dans les villages, mais c'est que les enfants entendent ça, et que d'une manière complètement inconsciente, ça se véhicule, se véhicule, se véhicule, et puis à un moment vous dites, mais est-ce que ça n'a pas généré qu'inconsciemment je réponde justement par loyauté secrète à cette histoire qui dit, voilà, la femme ne sera pas épanouie ou n'aura pas d'enfant. Donc c'est ça qui peut être douloureux, parce qu'on est nourri de tas d'histoires qui justement ne nous appartiennent pas et sur lesquelles on doit se détacher en se disant, même si j'ai un respect et de l'amour pour cette famille-là, je ne veux pas que ça se perpétue pour moi, puis pour mes descendants ou pour la famille entière.
Vous êtes devenue thérapeute, oui. Catherine Praljokaj. Comment vous arrivez à transmettre toute cette connaissance que vous avez acquise sur vous pour aider les gens à faire le même parcours? Est-ce que c'est justement ce passé généalogique qui revient très souvent dans les consultations?
Oui, forcément. Mais je me suis beaucoup intéressée au bouddhisme. Ensuite, je me suis beaucoup intéressée à l'énergétique. Et puis, effectivement, le background que j'avais en psychogénéalogie, c'est vrai que je le mets très souvent en place avec mes clients, parce que je pense qu'il y a tellement d'histoires qui découlent de ça. C'est-à-dire que c'est presque trop facile de le mettre en branle. Mais ce qui est intéressant, c'est quand je vois dans le regard de mes clients que ça clignote et que ça résonne. Et du coup, ça va beaucoup plus vite.
Mais quelle est souvent la prise de conscience, justement, de, vous disiez au début, donc de quelque chose qui ne vous appartenait pas, dont vous étiez porteuse? Quelles sont les occasions pour les gens de cette prise de conscience ?
La loyauté, je dirais, la loyauté familiale fait faire des ravages à des tas de gens. C'est-à-dire quand on voit qu'un type, par exemple, n'a que des faillites dans son entreprise, qui qu'en fait, en allant chercher plus loin dans sa généalogie, se rend compte qu'il a un arrière-grand-père qui a fait une faillite, mais qui n'a pas été dit et explicité par la famille. Finalement, il y a cette loyauté qui se met en acte, mais sauf qu'elle est complètement, elle est inconsciente pour le sujet, pour le client. Donc le jour où il prend conscience qu'effectivement il répond peut-être à quelque chose, je me fais faire par exemple à cet homme-là un exercice qui s'appelle la lettre d'adieu, et c'est dire à l'arrière-grand-père qui a fait faillite, écoute d'accord t'as fait faillite, personne n'a voulu en parler, aujourd'hui moi je le sais, donc je me désengage de cette loyauté-là, je ne suis pas obligée de faire faillite à chaque fois pour te montrer que je t'aime ou que j'ai aimé cette généalogie-là. Et donc là il y a comme un rituel de fin et... à ce moment-là, il peut brûler la lettre ou la mettre même au cimetière. Et voilà, donc là, on se désinvestit des loyautés.
Qu'est-ce qui est important là ? C'est la prise de conscience par la personne ou ce rituel précisément ?
Les deux. Les deux. Le rituel permet d'instaurer quelque chose qui est réel pour la personne. Parce que la prise de conscience, c'est déjà dur de s'en rendre compte la première fois qu'on en parle. Et puis ensuite, après, c'est de ritualiser ça et donner chair à cette prise de conscience.
C'est pas en rejetant ce que je suis, ma famille, ma mémoire, que je vais aller mieux. Donc en intégrant, c'est-à-dire en étant dans un processus d'ouverture à ma famille, à cette mémoire-là dans le corps. Donc quand vous ouvrez à ça, d'accord, j'ai ça, mais qu'est-ce que j'ai en plus de ça ? Alors on commence le travail de guérison. Alors que la plupart du temps, les gens disent... Ma dépression ne m'appartient pas, c'est celle de ma grand-mère. Voilà bien, j'ai dit alors, mais vous la ressentez en vous. Donc elle vous appartient. Non, 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 c'est ma grand-mère. J'ai dit, votre grand-mère, elle ne vous a pas déposé la dépression là. Vous avez un ressenti, et ce ressenti, vous l'avez transformé en concept, en idée, et vous la validez dans votre vie tout le temps, tout le temps. La chose importante que je voudrais préciser, c'est comment on guérit. Donc, quand on s'identifie à ce niveau énergétique. Et ce niveau énergétique, on ne peut pas l'avoir par la compréhension intellectuelle. Comprendre pourquoi j'ai mal ne veut pas dire je me sens bien. Parce que je comprends n'est pas égal je me sens. Voilà. Et je me sens est très difficile dans notre civilisation actuelle, parce que les gens ne sont pas dans le ressenti, ils sont dans la compréhension. Et après, ils ressentent. Bien sûr, vous avez ressenti, mais vous ressentez à travers l'idée que vous vous faites de vous-même et du monde. Donc, évidemment, si je me fais l'idée d'être une victime et que les gens m'escroquent, je regarde le monde comme des potentiels malfaiteurs. Eh bien, le monde, je ne verrai que ça. Et je ne peux pas. Et donc, je ressentirai, bien sûr. Les gens me disent, mais bien sûr, je ressens la souffrance, je ressens... Oui, mais c'est un ressenti qui est lié à une vulnérabilité, une identification au niveau vulnérable. Le véritable ressenti se situe à un niveau plus profond. Mais il faut que je passe par ces mémoires-là. Si je ne passe pas par là, je ne peux pas y accéder. Je peux comprendre comment y arriver. Et souvent, en sortant là, les gens me disent, mais comment je fais pour sentir ? Et c'est un truc tout bête. Un enfant, il vous dit, oh, ça ne se pose même pas la question, il sent. Mais des fois, je dis à ce moment-là, est-ce que vous avez froid ? Ou est-ce que vous avez chaud ? Les gens peuvent me répondre s'ils ont froid ou chaud. Je dis, vous avez dû descendre en vous pour sentir si vous avez froid ou chaud. Ça, c'est comment on fait, c'est ça. Redescendre en soi. Et souvent, on est dans ces fameuses mémoires. Les mémoires, elles existent au niveau mémoire. Mais elles arrivent à nous faire souffrir parce qu'on le vit émotionnellement. Donc, on en profite pour faire une porte d'entrée, pour aller chercher un niveau, comment je peux sentir des choses bien en moi. Ça existe, ça a toujours existé au niveau énergétique, mais quand j'entre, je suis bloquée par mes angoisses. Du coup, souvent, on ressent, on se bloque, on fait une médite, on a des angoisses, on sort tout de suite de son corps, on va penser à autre chose, et parce que c'est inconfortable. Donc, la chose aussi importante, quand on travaille sur ses mémoires, on rencontre des choses qui ne sont pas confortables. Et souvent, il faut rester à ce niveau de ce ressenti. Moi, j'aide à dépasser ce niveau rapidement, de manière un petit peu artificielle, puisqu'on a des instruments, des choses comme ça, des filtres qui aident. Mais après, le travail se situe au niveau que la personne ressente. Et souvent, les gens, après, ils me disent « je comprends la différence entre avoir des émotions, se mettre en colère, et ressentir la colère. Se mettre en colère, c'est en fait, je ne sens pas la colère. Je sens un truc, ça m'est désagréable, je me mets en colère. Ou je refoule la colère, et c'est à ce moment-là, c'est un organe qui va payer la facture. Si je ne refoule pas, je la sors pulsionnellement, c'est quelqu'un de mon entourage qui va payer la facture de ma colère. Mais je ne prends pas la responsabilité du ressenti. Et quand vous prenez responsabilité et ressenti, vous pouvez de vous-même accéder en se détendant, en transformant ce ressenti à un niveau énergétique. Voilà.
J'insiste beaucoup sur le fait que on rentre en transgénérationnel comme on rentre en analyse, ce sont des termes consacrés, et il faut savoir en sortir.
Marie-Paul Jonathan.
Parce que dans cette traversée des générations, il y a aussi une aspiration qui peut se faire, et on peut être pris dans un travail qui, au lieu de vous installer dans votre verticalité ici et maintenant, peut vous faire perdre le contact. Donc il faut d'abord, pendant les séances, bien chaque fois revenir ici et maintenant. Et lorsque le travail s'achève, c'est-à-dire élaboration de l'arbre, travail sur le dessin, eh bien, voilà ce que j'appelle sortir du transgénérationnel. C'est-à-dire, la personne est en bas. Tout le travail transgénérationnel va être dans une construction qui va aller au-dessus et de plus en plus. Donc, sortir du transgénérationnel, c'est inverser le schéma et c'est se retrouver en personne complètement libre. C'est quelque chose qui a à voir, je dis toujours, que le travail transgénérationnel a à voir avec la maïeutique. Parce que c'est un retournement, c'est un renouvellement, c'est un repositionnement qui a à voir avec la naissance.
Donc il y a un nouvel arbre qui est élaboré à la fin du travail.
Oui.
Avec la personne en haut.
La personne en haut, et c'est moi qui le fais. Et c'est sous la dictée de la personne, avec les couleurs qu'elle aura choisies. C'est bien un travail à deux. Et je suis une sorte de sage-femme. Et je trouve ce mot... Oh tiens, puis alors, regardez. Ça, c'est le hasard qui n'existe pas. Et je ne me souvenais plus qu'il y avait une sage-femme dans cet arbre. En tout cas, moi, je me sens et je me vois comme ça. Quelqu'un qui donne et ça part.
Comment rester membre de la famille tout en cherchant justement à s'abstraire de cette filiation?
Eh bien, en acceptant d'être affilié à ça.
Catherine Preljocage.
J'ai mis longtemps pour le comprendre, mais en fait, c'est en acceptant d'être assimilé à tout ça, mais tout en récupérant sa partie justement personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, on fait un peu le contraire C'est-à-dire que pendant longtemps, j'ai dit, ben non, moi je refuse d'être albanais, je refuse toute cette éducation. Vos trucs de l'honneur, j'en ai rien à faire. Je suis née en France, je suis française. Donc, à l'époque, jusqu'à mes 30 ans, je revendiquais mon individualité. Or, en fait, on sait que pour s'individualiser, on doit passer, comme le dit Jung, par tout ce qui nous traverse de l'inconscient collectif et dans la famille, de cet inconscient familial, pour se récupérer, individualiser, individuer, presque, je dirais, se retrouver unique, mais à côté de tout ça. Je pense qu'on doit faire tout le travail d'acceptation de ce que la famille nous a donné, tout en étant le plus séparé d'elle. Mais du coup, quand un enfant fait le deuil, ça peut aider le parent et vice-versa. C'est-à-dire que je vois, par exemple, le travail que j'ai fait sur mes racines, ça a beaucoup aidé mes parents. Donc, on se le réapproprie, on l'accepte, on le transforme, et puis après, on l'embellit pour la suite. Ça doit finir par être très lumineux, en fait.
La psychogénéalogie ou la transmission de la mémoire familiale. L'arbre de vie. Avec Marie-Paul Jonathan, Catherine Praljokage, Didier Dumas, Nguyen Tiki. Les textes lus sont extraits de Autoportrait à l'ouvre-boîte de Philippe Ségur. Groupe de réalisation Éric Gérard, Jean-Louis Deloncle, Claude Giovanetti. Une émission de Bénédicte Niogret.
C'était la psychogénéalogie, deuxième partie, maladie et arbre de vie, une émission diffusée le 6 août 2005.